Des clés pour vivre avec Nathalie Cardon.
Bonjour Frédéric Dujésus.
Bonjour Nathalie.
Alors j'espère que vous ne vous sentez pas seul cette semaine, et puis je pense à tous nos auditeurs qui vous découvrent et qui peut-être auraient besoin pour un temps, c'est le temps d'un chemin, de trouver un psychopraticien. Voilà, et on découvre aussi l'ACP avec vous, cette approche centrée sur la personne. Alors l'ACP, je dirais deux questions en une, est-elle bisounours? Peut-on éluder cette question du mal?
Cette question est excellente. Ouais. Parce qu'en fait, les détracteurs de l'ACP ont fait ce reproche à Rogers. C'est notamment un psychologue du XXe siècle qui s'appelait Rolomé. On dit à Rogers, votre histoire, là, d'hypothèse actualisante, ça peut pas marcher, parce que si m'actualiser, c'est-à-dire être mieux, ça se fait au détriment des autres, c'est pas possible. Ça, c'est pas bon. Et alors, effectivement, quand Rogers a commencé son travail dans les années 40, il était dans un cadre sociétal où l'éducation était plus stricte. Ouais. Il y avait une religion qui était sociologique. En plus de la foi, il y avait des enseignements de morale. Tout ça a disparu dans les années 60. Et donc dans les années 70, des praticiens en ACP se sont trouvés confrontés au problème, à des personnes qui finalement, pour aller mieux, choisissaient, entre guillemets, le mal. D'où la question fondamentale, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal? Si on sort de toute catégorie morale, et pour nous chrétiens c'est important, puisque l'évangile est une bonne nouvelle de vie, mais n'est pas un code de morale. On le travestit si on dit que c'est juste un code de morale. Donc, quel est le bien et le mal? Et là encore, je m'appuie sur les travaux de deux personnalités. Alors, le psychiatre Scott Peck, qui lui a travaillé en tant que psychiatre et que praticien, psychothérapeute, avec un prêtre, oui, exorciste. Oui. Donc ça, c'est extrêmement important. Oui, oui. Parce que Scott Peck a été confronté vraiment à l'existence du mal, c'est-à-dire à des personnes qui étaient infestés par un mal profond, un vrai mal, et qui ont dû être exorcisés.
Donc d'où le besoin pour lui de travailler avec un prêtre exorciste.
Donc il a été témoin de choses dont il ne parle pas dans son livre. Il dit simplement, pour moi, le démon n'est pas une vue de l'esprit. J'ai vu son œuvre, j'ai vu ce
Donc
qu'il
il,
fait.
Donc il a fait l'expérience d'avoir des cas.
Il a fait l'expérience sur des cas humains. Et il a dit, je veux pas en dire plus, c'est pas mon propos, mais je sais qu'il faut faire attention. Et il a sorti toute une théorie sur comment les personnes sont infestées. Une théorie que je reprends là, qui est très intéressante, oui, qui montre que finalement, faut pas avoir peur du mal. C'est-à-dire, le mal va pas vous sauter dessus, il va pas me sauter dessus quand je vais sortir de Radio Présence, il va pas m'attendre au coin du fourré. Mais le mal, en fait, utilise des fêlures pour rentrer dans la personne. Et là, on reprend l'image de Saint Ignace. Saint Ignace qui parle de l'ennemi qui rôde autour du château, qui en inspecte les murailles, les fortifications, et qui va chercher la petite fissure par laquelle rentrer. C'est pareil dans nos vies. Or, une fêlure, c'est quoi? C'est une blessure dont on n'est pas responsable. Une personne qui est blessée, ça peut être dans l'enfance, va avoir cette fêlure en elle. Et si on ne s'en occupe pas, cette fêlure va pouvoir, avec le temps, comme un mur qui se lézarde, s'agrandir. Et si elle s'agrandit, c'est une porte ouverte.
Et c'est plusieurs portes ouvertes.
Et alors, là, ça peut être très dangereux.
Je dirais, sur cette petite fêlure qui peut aussi se multiplier et devenir une grande blessure, la personne, l'enfant, l'adolescent, devenu adulte, n'est pas toujours conscient et n'est pas en capacité de discerner.
Exactement.
Et de reconnaître que là, il y a eu fêlure,
Exactement.
Blessure, que cette blessure s'est agrandie.
Exactement.
Alors, comment opérer, ajuster le discernement?
Et alors, nous, on est là pour justement accompagner les personnes pour aller voir ces fêlures.
Comme un miroir. Ouais.
Aller voir ces fêlures, qu'elles puissent les regarder.
Donc, c'est-à-dire aller voir, c'est-à-dire visiter.
Visiter.
Mais pas seul.
Donc, visiter, mais pas seul.
D'où le rôle important d'un
psychopraticien. Aller visiter la cave de sa maison.
La fameuse maison.
Aller visiter la cave, mais à deux. Avec éventuellement quelqu'un qui tient une lampe de poche à côté pour ne pas être pris dans le noir. Et qui aide la personne à faire le point de ce qu'il y a dans cette cave et de ce qu'il faut vider dehors, de ce qu'il faut nettoyer.
Et c'est un peu aussi le cas, toujours, de cette personne que vous accompagnez
tout
en
fait,
ce moment.
Tout à fait,
dans, je dirais, la visitation de la maison, vous êtes à la cave.
Et oui, nous sommes au troisième sous-sol, oui. Et c'est effectivement des choses qui sont tellement dures qu'elle ne peut pas les voir seule, et une présence humaine à ses côtés est nécessaire.
Alors, j'en reviens un peu à Scott Peck, qui a eu aussi cet accompagnement avec ce prêtre exorciste. Quand, parmi, je dirais, une clientèle, et vous risquez d'avoir aussi ce type de client, ou vous-même, un jour, Frédéric Di Gesù, se présente un client, mais qui est finalement, au fond, a ouvert beaucoup de portes parce que les blessures étaient là, et il y a une infestation ou peut-être une possession. Que fait le psychopraticien lui n'est pas avec ce ministère d'exorcisme
Il se protège.
Alors il se protège comment?
En mettant fin à la relation. Ça peut arriver, c'est arrivé à des confrères. Moi, ça ne m'est pas arrivé, mais c'est arrivé à des confrères qui ont été confrontés à des manifestations de mal absolu qui n'étaient plus de leur ressort. D'ailleurs, il y en a des exemples dans l'Évangile, hein, quand les disciples n'arrivent pas à chasser un démon et que Jésus dit « cette engeance-là, vous ne pouvez rien faire ». Donc ça peut arriver, bon, il ne faut pas se faire une fixation dessus, ni en avoir peur, parce que voilà, ça n'arrive pas tous les jours, mais c'est une éventualité possible. Et dans ce cas, la seule solution, c'est de mettre un terme à la relation, et pour moi qui suis chrétien, d'aller voir un prêtre pour vérifier qu'il n'y a pas eu, entre guillemets, de contamination ou qu'il n'y a pas de danger.
Donc c'est des choses qui peuvent arriver aussi. Vous parlez de contamination, le client peut aussi contaminer le professionnel.
Alors, je ne voudrais pas... Oui, alors je ne veux pas faire peur aux auditeurs, mais étant dessus, ce sont des cas extrêmes qui, heureusement, n'en arrivent pas tous les jours, mais c'est des cas qui peuvent arriver. Ça c'est arrivé à des confrères. Donc, ça demande une certaine vigilance, d'où pour moi aussi l'importance d'être, de concilier cette activité avec ma foi chrétienne, c'est-à-dire d'avoir conscience de ces risques-là et du coup d'avoir un maximum de sécurité pour me protéger par rapport à certaines dérives qui seraient possibles, même si elles sont rares.
Alors, on parle d'identifier, vous identifiez, ça c'est, je dirais, le rôle du psychopraticien, oui. Les blessures, les fêlures, pour, au fond, permettre au client, je dirais, de se reconstruire.
Oui.
Donc
oui.
De se relever.
Oui, puisqu'en fait, ce qui se passe, alors sans aller même dans les cas extrêmes, hein, ce qui se passe pour chacun, c'est que l'enfant se construit par la relation avec ses parents. Et il se construit conformément à l'image que ses parents attendent de lui. Or, cette image que ses parents attendent de lui n'est pas forcément la réalité de l'enfant, n'est pas forcément son être intérieur. Donc, bon, si c'est un petit ajustement, c'est pas trop grave. Si c'est un gros ajustement parce que y a dysfonctionnement des parents et parce que voilà, pour survivre, l'enfant est obligé de traverser complètement sa réalité et de donner une image qui n'est pas lui, ça peut ressortir de façon traumatique à la quarantaine ou avant ou après.
Et donc ça peut conduire aussi à des dérives.
Ça peut conduire du coup à des dérives, à des addictions,
des dangers aussi,
de la
des
fuite.
Addictions.
Donc ça peut être toutes les addictions possibles et imaginables. Ça peut être la fuite dans l'hyperactivité.
Même professionnelle, hyperactivité professionnelle.
Tout à fait, la suractivité professionnelle, puis l'épuisement, le burn-out, la dépression. Bon, c'est,
alors
malheureusement,
il y en a plein. Vous parlez là d'une réalité.
Ah, c'est une
des
réalité.
Burn-out, des,
j'en ai vu plein au travail.
De l'hyperactivité. Je dirais dans une hyperactivité aujourd'hui.
Tout à fait. Le monde est dans une hyperactivité, oui. Loin de toutes ces questions humanistes et existentielles.
Ah, là, on est bien d'accord. Oui,
c'est
bien d'accord.
Donc voilà. Donc l'intérêt du travail thérapeutique, c'est que la personne, elle va commencer par défaire cette fausse image d'elle, comme le croyant défait sa fausse image de Dieu quand il veut avancer. Et puis toutes les briques, il va cheminer vers sa vérité. Qui suis-je vraiment? Quel est mon moteur pour vivre sur Terre et pourquoi suis-je sur cette Terre? Et il va pouvoir se reconstruire avec ces mêmes briques, mais reconstruire son image authentique.
Donc
et
quelque
là,
part, on parlait de maison, je dirais visitation de la maison, on reconstruit cette maison.
Voilà, on refait les papiers peints, on remet les meubles, parce que la maison, elle était peut-être au goût de papa et maman.
Je dirais que dans tout travail, je dirais intérieur ou de guérison, au fond, un psychopraticien est à l'écoute aussi de tout un parcours, de tout un chemin, et c'est le petit enfant.
Oui.
Qui revient.
Et c'est le petit enfant, qu'on appelle nous l'enfant intérieur.
L'enfant intérieur, vous l'avez rencontré.
Moi, je l'ai rencontré sans le connaître. Ce qui est amusant, c'est que moi...
On y viendra peut-être demain.
On y viendra parce que je l'ai rencontré sans le connaître, sans connaître la théorie. Donc effectivement, en fait, cet enfant est en chacun de nous, oui. Et notre travail, justement, c'est d'amener les personnes à écouter cet enfant et à comprendre vraiment ce qu'elles sont vraiment et à se reconstruire, donc à à remeubler leur maison, remettre les meubles qui correspondent à ce qu'elles sont vraiment, à leur goût, remettre les couleurs qui sont à leur goût. Et là, elles vont être en croissance et elles vont être heureuses. Et donc, pour être heureuse, le choix que va faire cette personne, le choix qui va la rendre la plus heureuse, c'est celui qui correspondra à ce que lui dit son centre de valeur, le fameux centre de valeur du bien absolu dont j'ai parlé tout à l'heure. Si moi, dans la relation thérapeutique, je l'ai conduite à contacter ce centre-là, elle choisira forcément quelque chose qui fera son bien, mais aussi le bien autour d'elle. Et là, elle sera heureuse, elle sera bien reconstruite.
Alors, écoutez, on reste sur ces bonnes paroles, je dirais plein d'espérance, heureuse et reconstruite. Frédéric Desjésus, psychopraticien, l'intervenant cette semaine dans cette série des clés pour vivre. On vous retrouve demain pour le tout dernier épisode et merci.